S&P 500, la bulle spéculative va-t-elle exploser d'ici la fin de l'année 2025? Chers amis, suivez chaque matin mes analyses publiées sur le profil Swissquote du site TradingView, une analyse par jour sur toutes les classes d'actifs. Et enfin, je vous rappelle que le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun où je traite ce sujet de savoir si le S&P 500 et son mouvement haussier qui a démarré à l'automne 2022, son mouvement haussier qui s'est prolongé cette année 2025 après, bien sûr, souvenez-vous le flash crash de la guerre commerciale initiée par Trump au printemps dernier. Bref, la question que tout le monde se pose, ce que fait le S&P 500 cette fin d'année 2025, ce que fait le marché action américain cette fin d'année 2025, est-il comparable aux grandes bulles spéculatives de l'histoire de notre siècle? Nous n'allons pas revenir trop dans le passé, en particulier la bulle spéculative dot-com 2001 derrière un bear market de 50% et la bulle spéculative dite du crédit, de la bulle financière, des subprimes, bon, qui a éclaté au sommet de 2007 avec un bear market là aussi de 50% en 2008 et 2009. Dans cette vidéo, je vais tout comparer, tous les critères pour répondre à cette question. À la fin de cette vidéo, vous allez être capable de dire si le S&P 500 est en bulle, en demi-bulle, pas en bulle. Bon, les hypothèses sont sur la table et mon plan est maintenant exposé. Première partie, je reviens sur l'histoire. Rapidement, j'ai tout mis dans les tableaux, c'est propre. C'est quoi une bulle spéculative? En quoi c'est comparable? Juste, je vous donne un truc, un chiffre. Vous savez que depuis le bottom du bear market de 2022, donc rappelez-vous le bear market de 2022 qui avait suivi la forte reprise haussière de 2020-2021, lorsque les vaccins sont arrivés, le Covid, etc. Bon. Bear market en 2022, vous vous en souvenez tous. Depuis le bottom de 2022, le S&P 500 a quasiment fait 100%. Il est à plus 95%, je crois. C'est quasiment égal à la performance du S&P 500 entre 2002 et 2007, et ensuite le bear market de 50%, dont vous vous souvenez tous de la crise financière 2008-2009. Donc ça forcément, nous commençons à faire des parallèles. Après, il faut comparer ce qui est comparable. On regarde qu'est-ce qui montait, les valorisations, l'aspect technique. Bon, vous allez voir, c'est intéressant d'avoir plusieurs critères et de comparer la bulle de 2000, la bulle de 2007, et ce qui serait... peut-être ou pas, ou non, je sais pas. Oui, on va voir, je donne mon avis. Une bulle en 2025. Qui dit bulle, n'oubliez pas. Qui dit bulle, dit éclatement de la bulle. Il n'y a pas bulle sans éclatement. Une bulle éclate toujours. Toujours. On n'a aucun... zéro cas de figure. Zéro. Même moins un. Nous avons moins un cas de figure de bulle qui n'a jamais explosé. Moins un. Donc c'est pourquoi c'est important. Il faut qu'on puisse qualifier ce que fait le marché action américain. C'est peut-être pas une bulle, hein. Première partie, donc, on revient sur les bulles de 2000 et 2007. Deuxième partie, gros tableau comparatif, bulle.com 2000, crise financière 2007 avec notre marché actuel. Troisième partie, on fait la synthèse. Du coup, sommes-nous en bulle ou pas? Demi-bulle, pas bulle, ça fait beaucoup de bulles. Oui, ce sera le terme de ce lundi, le mot de la semaine. Donc vous allez voir que la conclusion est intéressante. Puis derrière, chacun se forge son opinion. Quatrième partie. Moi, vous savez, je commence à me projeter sur l'année prochaine et je pense que 2026 sera une année compliquée pour le marché action. De rebond du dollar, bullish pour les obligations. Donc effectivement, je vois un bear market en 2026. Alors, est-ce que 2026 verra l'aboutissement, le développement de l'éclatement de cette bulle spéculative qui pourrait éclater d'ici la fin d'année? On verra. Mais il y a une autre raison. C'est le fameux cycle présidentiel. L'année prochaine, nous sommes la deuxième année du mandat de Trump. Et vous allez voir que c'est, au sein du cycle présidentiel, la pire des années. Ça pourrait correspondre à cet éclatement de la bulle dite spéculative. Cinquième partie, on fera un point technique, comme d'habitude, sur l'indice S&P 500. La
spéculative du S&P 500 va-t-elle éclater d'ici la fin d'année? C'est parti, chers amis, on attaque.
Le plan s'affiche sous vos yeux, donc je vous l'ai donné en introduction.
5 parties. Alors de quoi parlons-nous rapidement, hein, enfin rapidement, nous parlons donc de l'indice S&P 500. Là je passe en échelle logarithmique, on comparera mieux. L'idée c'est de déterminer si nous sommes dans une phase similaire. Là je vais vous mettre plutôt le S&P 500. Sommes-nous dans une phase similaire à celle qui avait vu le bear market ici de 2001-2002 et le bear market de 2007-2008. Donc, ou peut-être au minimum un bear market ici comme 2022. C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette nouvelle édition du Top Gun. Et je me réduis et c'est parti. Mon Kiki, première partie, comparons donc ce qui est comparable. Déjà, de quoi parlons-nous ? S&P 500, les bulles spéculatives majeures et les grands bear markets du passé. Alors, qu'est-ce qui alerte ? Bien sûr, la situation actuelle du marché actions, les valorisations, nous allons tout reprendre, mais commençons par des éléments de performance. L'indice S&P 500 est en bull market depuis maintenant le début de l'année 2022. Je vais reprendre ici le graphique. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires. Et puis ici, l'indicateur technique RSI, nous ferons l'analyse technique plus tard. Alors ici, vous reconnaissez le choc boursier de la crise sanitaire, la grande reprise haussière. Ici, c'était l'arrivée des premiers vaccins à l'époque, lors de la crise sanitaire. L'aboutissement d'un bull market fin 2021, le début du resserrement monétaire des banques centrales pour lutter contre l'inflation. Un bear market bien construit, donc un marché baissier bien construit en plusieurs vagues et pas du tout un flash crash. Flash crash que nous avons d'ailleurs reconnu ici en début d'année 2025 lorsque Donald Trump a engagé la guerre commerciale dite des tarifs douaniers réciproques. Depuis, nous sommes donc depuis le point bas de 2022 dans un bull market et ce bull market, depuis le flash crash de la guerre commerciale ici, prend une dimension verticale, atteint beaucoup d'objectifs de cours de l'analyse technique, rejoint des records en termes de valorisation, en particulier pour le secteur de la tech, c'est ce que nous allons regarder. Et la question se pose de savoir, sommes-nous donc dans une situation technique de bulle, notamment cette fin d'année 2025, situation technique de bulle qui pourrait mener à un grand marché baissier, à l'éclatement de la bulle spéculative. Voici les informations que nous avons déjà sur le plan de la performance. Donc je suis repassé ici en échelle arithmétique. Si vous prenez le point bas du marché baissier de 2022 à la situation actuelle du S&P 500, le marché action américain, ici selon le contrat futur S&P 500, a gagné 94%. 94%, nous sommes presque au gain à l'époque du marché action entre le point bas de 2002, qui fut la fin du bear market de l'éclatement de la bulle spéculative dite dot-com, jusqu'au sommet de 2007, un marché aussi à l'époque porté par crédit, et ensuite le marché baissier de 2008-2009. Le marché baissier dot-com, l'éclatement de la bulle, ce fut moins 51%, 100% de reprise lors de l'avancée du marché entre 2002 et 2007, à nouveau un bear market moins 58%, et derrière, donc, une phase haussière que nous connaissons de manière régulière depuis 2009, avec de temps en temps soit des flash crash ou des bear markets. La question que nous pouvons nous poser, c'est sommes-nous à l'aube de l'éclatement d'éventuelles bulles qui nous mènerait à nouveau à ce que nous n'avons pas vu depuis très longtemps, un marché baissier d'un an et demi et de plus de 50%. Forcément, c'est une question qui compte. Donc, première information, lorsque l'on compare les performances, vous avez sous les yeux donc un tableau qui vous résume les informations concernant les deux grandes bulles de notre siècle, la bulle dot-com, la bulle de la tech, à l'époque toutes les entreprises qui rajoutaient .com à leur URL, enfin toutes les entreprises pardon qui rajoutaient .com à leur nom, enfin à l'URL c'est logique, mais à leur nom commercial officiel, étaient recherchées parce que c'était l'explosion de l'Internet au tout début, avec des perspectives de profit qu'on envisageait incroyables, mais il n'y avait rien de tangible. Bon, le bull market, 400% entre octobre 90 et mars 2000. Mars 2000, éclatement de la bulle spéculative, bear market, moins 49%, moins 50. Vous avez eu ensuite la phase d'avancée octobre 2022 à octobre 2007, basée aux États-Unis sur l'explosion de l'immobilier, l'envolée des crédits hypothécaires, une bulle du crédit de manière générale. Crédit des entreprises dans tout type de secteur, c'était très large. Il n'y avait pas que l'immobilier. Mais l'immobilier a été le déclencheur. Rappelez-vous la crise des subprimes. 100% d'avancée entre octobre 2022 et octobre 2007 et un bear market de plus de 50%. 100% d'avancée, c'est donc presque la performance de l'indice S&P 500 depuis le point bas de l'année 2022. Le point bas de l'année 2022, ici donc 100% de hausse, quasiment 100% de hausse. Nous serons à 100% de hausse lorsque le S&P 500 atteindra à peu près les 7000 points, un peu moins les 6900 points, nous serons à 100% de hausse. En plus, d'un point de vue lyotis, c'est l'aboutissement d'un vaccin qu'on commence à être suracheté. Enfin voilà. Ça, c'est un premier élément de comparaison. Maintenant, peut-on vraiment ajouter une ligne ici? Peut-on véritablement ajouter une troisième ligne et parler de bulle? Mais bulle de quoi? Bulle des valeurs de la tech? Bulle de l'intelligence artificielle? Alors, si ce sont les valeurs de la tech et l'intelligence artificielle, c'est que le marché dans sa globalité n'est pas en bulle. Non, parce que ici et ici, le marché dans sa globalité était en bulle. En particulier, la bulle dite de la crise financière, du crédit. Il n'y avait pas que le secteur immobilier qui était concerné dans cette avancée significative et excessive de 2002-2007. Passons donc justement à un tableau comparatif multicritères pour envisager la situation. Dans ce tableau, vous avez plusieurs éléments. À gauche, ici, une colonne qui passe en revue plusieurs critères. Ici, donc, la première bulle dite dot-com 2000, la bulle de la crise financière 2007 et notre marché actuel. J'utilise comme d'habitude un code couleur. Lorsque c'est vert, c'est que nous n'avons pas les caractéristiques d'une bulle. Lorsque c'est rouge, nous les avons. Lorsque c'est orange, c'est entre les deux. Et effectivement, on peut voir à peu près toutes les couleurs. Donc déjà, première information visuelle, ce n'est pas rouge vif. Alors que là, c'était rouge vif, et ici, c'était rouge vif. Passons en revue les différents critères. Je ne dis pas que ce ne sera pas rouge vif dans 2 mois, d'accord? Mais voilà, il faut avoir conscience de ça. Première chose. Alors, on ne va pas se contenter de regarder les couleurs. Regardons les informations. Tout d'abord, la valorisation. Bon, alors là, sans aucun doute, la bulle dot-com, toutes les valeurs de la tech étaient extrêmement survalorisées. En plus, c'était basé sur du vent. Ça, qu'elles étaient extrêmement survalorisées, mais sans bénéfices, sans chiffre d'affaires, sans quasiment rien de concret. Ce n'était que des perspectives. La bulle de la crise financière de 2007, pareil, des valorisations extrêmement élevées et dans de nombreux secteurs, en particulier les valeurs financières et les valeurs immobilières. Alors nous, où en sommes-nous? Eh bien, notre marché actuel est effectivement en excès de valorisation lorsque l'on regarde la valorisation globale du S&P 500. Mais lorsqu'on creuse, cet excès de valorisation du S&P 500 est d'abord dû à un excès de valorisation de la tech qui pèse 40% du calcul du S&P 500. Et ce que nous savons, c'est que lorsqu'on retire la tech du S&P 500, le marché n'est pas en excès de valorisation. Voilà une différence majeure avec la bulle de 2007, où plusieurs secteurs étaient concernés. Regardons justement cela de manière chiffrée. Alors, tout d'abord, oui, lorsque vous prenez le PE Chiller, donc qui est un price earning beaucoup plus respectable que le PE classique, parce qu'il est basé sur des données passées, parce qu'il retraite les bénéfices passés de l'inflation, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus cohérent et qui est moins basé sur du vent. Le PE Chiller actuellement du S&P 500 est à 39, il a dépassé son record de 2021, et la prochaine étape, c'est justement le record de la bulle dite dot-com, qui était à environ 44. Nous sommes à 39. Moi, je pense que quand le PE Chiller va rejoindre cette zone, là, il faudra quand même penser à sérieusement prendre ses bénéfices. Mais donc, nous sommes survalorisés, mais pas encore record historique. Lorsque vous regardez la valorisation des secteurs, toujours ici sur le site Guru Focus, qu'est-ce que vous observez? Vous avez donc un PE de Chiller du S&P 500 qui est à 39,7. Vous avez un PE de Chiller de la tech qui est à 67,20, ce qui est énorme. Vous avez à droite ici tous les petits graphiques du PE classique et du PE chiller, des 11 super secteurs dans lesquels les 500 actions du S&P 500 sont rassemblées. Oui, effectivement, pour la tech, on est sur des records historiques, que ce soit en PE régulier ou en PE chiller, mais regardez les autres secteurs, consommation cyclique, immobilier. La grande différence avec 2007, c'est qu'ici, le secteur immobilier n'est pas du tout en surchauffe. Mais absolument pas. La bulle ici, c'était multisectorielle. Actuellement, c'est une bulle de l'IA. C'est un secteur sur 11. Un seul sur 11. Oui, mais. C'est un secteur sur 11, sauf que ce secteur sur 11 pèse à lui seul 35% du S&P 500. Actuellement, donne la réponse à cette vidéo, nous sommes en bulle. Oui, sur 35% du S&P 500. Alors, vous pouvez aussi ajouter le secteur Communication Services, qui n'est pas loin d'une situation de bulle. Grosso modo, actuellement, la bulle spéculative est valable sur, allez, un bon 40% du S&P 500. Nous sommes très loin du 80-90% de 2007. Mais tout de même, et avançons. Donc effectivement, les autres secteurs sont loin de leur record ou ne sont pas en excès de bulle. Je reprends ici donc le tableau comparatif. Par exemple, les valeurs financières, vous avez un peu le chiller de 21%. C'est carrément sous contrôle. En 2007, les valeurs financières étaient en valorisation archi excessive. Vous avez un PE régulier de 18. Idem pour l'énergie, idem pour la santé. Les valeurs industrielles commencent, elles, à être en excès de valorisation, mais ça reste sous contrôle. En réalité, si vous prenez les 11 secteurs du S&P 500, vous pouvez parler de bulle ou de valorisation excessive ou de survalorisation pour les valeurs de la tech et les valeurs communication services, PE chiller de 42. Ok, très bien. Bon, ça c'est une chose, sauf que ces secteurs, donc vous avez vu que c'est 40% de l'indice S&P 500 et ce n'est pas 100%. Alors, je continue, on va prendre les informations dans l'ordre. Maintenant, la fameuse concentration du marché, concentration de la bulle. Alors, la bulle .com, c'était là aussi focus sur les grands noms de la tech. Alors, vous allez me dire, bah ok, du coup, c'est comme la bulle de 2000. Excès de valorisation et des prix en mode vertical sur les valeurs de la tech. Bah, finalement, c'est comme nous. Non, mais il y a une différence. Quelle est cette différence? Oui, la bulle de 2000 était concentrée sur la tech, mais il n'y avait aucun profit. Quasiment aucun profit, ou très peu. Tout était basé sur des perspectives. Or, nous, là, oui, les valeurs de la tech sont survalorisées, mais elles délivrent à bord. Elles délivrent des dizaines de milliards de bénéfices. C'est du concret, du tangible. Donc, premier récapitulatif. Nous sommes en bulle sur les valeurs de l'IA, les valeurs de la tech, communication services, très bien. Bon, ça, c'est comparable à celle de 2000. Ok, mais en 2000, il n'y avait pas de bénéfices. Là, c'est massif, les bénéfices. Par rapport à 2007, la bulle spéculative était concentrée, était multisectorielle. Là, nous, c'est unisectoriel. Déjà, on voit des différences. Même si globalement, le PE de Schiller du S&P 500 est par exemple nettement au-dessus de la situation de 2007. Et même si ce PE de Schiller est en train de rejoindre le record de 2000, il n'y avait pas de bénéfice en 2000, quasiment rien. Vous voyez donc tout de suite, je ne serais pas surpris moi qu'on aille au minimum chercher ici avant de commencer à parler de l'éclatement d'une bulle. Verrons bien. En tout cas, il y a donc des différences. Dans les différences aussi majeures, il y a l'aspect crédit et liquidité. Et ça, c'est... La bulle de 2007, c'était l'excès de crédit dans tous les sens. L'économie privée, les entreprises. Actuellement, nous, oui, les États sont sous pression. Mais l'économie privée, les entreprises, elles, nous ne sommes pas sur un record historique d'endettement des entreprises. Oui, c'est élevé, mais pour l'instant, il n'y a pas de stress obligataire. Il n'y a pas de stress obligataire. De la même façon, la liquidité, il y avait vraiment des signes de leverage énorme, de tension énorme sur le crédit à partir de 2007-2008. Et puis, bah, rappelez-vous les grandes faillites, notamment la faillite de Lehman Brothers, avec des bilans qui étaient remplis de cochonneries. Là, ce n'est pas le cas. la liquidité est sous contrôle, la Fed a maintenu la liquidité sous contrôle, et je parle du marché obligataire, et globalement, la liquidité globale, elle, les conditions de liquidité globale, je vous remonte ces indicateurs de liquidité, je vous avais fait une vidéo spéciale dessus il y a un certain temps, ici la liquidité structurelle, ici la liquidité mondiale M2 ou encore la liquidité macroéconomique, les tendances sont bullish, il n'y a pas de contraintes, c'est même au contraire un leading indicator qui donne plutôt un message positif. Bon, très bien. Alors, maintenant, l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, vous savez, une bulle éclate lorsqu'on arrive au bout du bout de l'euphorie. Le sentiment du marché. Lorsqu'on arrive au bout du bout de l'euphorie, lorsque tout le monde passe bullish et ne croit pas un effondrement. C'était le cas en 2000. C'était le cas en 2007. La majorité était hyper confiante. Là, actuellement, il commence à y avoir de plus en plus de discours. Nous sommes en bulle, faites attention. Il y a déjà donc une différence au niveau du sentiment. Alors, au niveau donc des fondamentaux, juste la valorisation fondamentale en se basant sur le Warren Buffett Indicator, oui, là, c'est alerte rouge. C'est alerte rouge sans hésiter. Alerte rouge sans hésiter pour le Warren Buffett Indicator avec un total market cap qui est à 221% du PIB. C'est significativement surévalué. Ça, il n'y a pas de sujet. Et maintenant, d'un point de vue technique, l'éclatement de ces deux bulles ici ont été précédés de divergences baissières, de surachats à divergences baissières, de surachats à divergences baissières. Là, actuellement, si vous prenez l'indice S&P 500 en données mensuelles, regardez ici à l'époque, surachat, divergence baissière, bear market, surachat, divergence baissière, bear market, nous sommes en surachat, il n'y a pas encore de divergence. Donc vous voyez que lorsqu'on fait de la comparaison multicritère, et je vous montre ici les informations spécifiques sur la valorisation, donc effectivement, le PE de Schiller est de 40, nettement au-dessus de celui de la crise financière, en train d'atteindre le record de la bulle dot-com, sauf que le PE de Schiller de 44 de 2000, il était excessif parce qu'il était basé sur rien. Il n'y avait quasiment pas de bénéfices. Et il était à 44. Nous, il est à 40. Mais il y a un maximum de bénéfices. Attendez, je vous remontre les datas. Je vous montre les datas. Regardez ici, croissance du chiffre d'affaires. Vous avez les 11 super secteurs du S&P 500. Regardez un peu la croissance des earnings et la croissance des chiffres d'affaires du secteur de la tech. Et quasiment tous les secteurs sont en croissance de chiffre d'affaires, et vous avez une grande partie des secteurs qui voient croissance des bénéfices. Donc, il y a une réalité quand même des bénéfices, et en particulier sur le secteur de la tech. Et ça, c'est la vraie différence avec l'éclatement de la bulle de 2000. Alors, mis l'un dans l'autre, quelle conclusion pouvons-nous tirer de tout cela? Oui, la période actuelle voit un certain nombre de signaux propres à une bulle. Valorisation très élevée notamment pour un secteur, celui de la tech, le narratif autour de l'intelligence artificielle. Mais lorsque l'on regarde la profondeur du marché action, lorsque l'on regarde les autres secteurs, nous ne sommes pas dans une bulle de valorisation. Et d'autre part, oui, nous sommes dans une bulle de valorisation de la tech, mais parce qu'il y a des bénéfices et des perspectives de bénéfices. Donc vous voyez tout de suite, oui, il y a une bulle de la tech, mais on peut un peu la justifier, alors que ce n'était pas le cas en 2000. Et lorsqu'on enlève la tech et qu'on regarde les autres secteurs, on n'est plus en bulle. Et ça, c'est ce dont je vous parle très souvent lorsque je vous invite à regarder le S&P 500 équipondéré. Qui lui, il vient à peine de dépasser son record. Ou lorsque vous regardez le Russell 2000, qui n'est qu'à peine à son record de 2021. Donc là, on n'est pas sur les valeurs, dans les valeurs de la tech. Mais oui, avec les valeurs de la tech, c'est complètement vertical. Donc il y a des points de comparaison, mais même au niveau du sentiment, on n'est pas encore dans Alors ça écarte pas le risque que 2026 soit un bear market. Mais c'est peut-être trop tôt là pour l'envisager, même s'il y a des corrections à court terme, c'est peut-être trop tôt pour dire attention, tout va s'effondrer. Il y a quand même des éléments qui sont caractéristiques d'une bulle. C'est la conclusion que moi je peux ici en tirer. Alors, dans les choses qui sont intéressantes à regarder, Ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous ai remis ici ce qu'on appelle le cycle présidentiel. Le cycle présidentiel, la performance moyenne du marché action selon les années du mandat présidentiel. Et ce que nous savons, c'est que l'année numéro 2, l'année des élections de mi-mandat, l'année des mid-terms, est la plus faible de toutes. Donc, c'est pas déconnant de se dire qu'on va arriver fin 2025 avec une valorisation dans la tech hyper élevée. En fait, tout ça peut rentrer en bear market dès lors qu'on va commencer à douter des perspectives de bénéfices. Mais en même temps, les autres secteurs ne sont pas en bulle. Donc il pourra peut-être y avoir un passage de témoin de la tech vers les autres secteurs, ce qui limitera la casse. Et ce qui fait que je ne crois pas en un bear market de 50%. Si vous voulez, c'est là où la comparaison s'arrête. Oui, il y a des éléments de bulle, mais à l'époque, en 2000 et en 2007, la bulle était quasiment totale et multisectorielle. Donc, c'est manger un bear market de 50%. Là, c'est quasiment unisectoriel. Et en plus, on peut un peu la justifier par les bénéfices. On peut avoir un bear market de 15-20%, peut-être 25%, en prise de profit. Et encore, ce sera amorti par la rotation vers les autres secteurs, peut-être défensifs, qui ne sont pas survalorisés, mais même des secteurs classiques, cycliques ou de croissance qui ne sont pas survalorisés. Il n'y a pas que la tech. Donc, voilà, il y a des éléments de bulle, mais une bulle à demi justifiable, pour moi, fait que on ne peut pas établir une comparaison parfaitement égale avec 2000 et 2007, et donc, par conséquent, ça sera difficile de défendre un krach boursier de 50 ou 60%. Mais par contre, on peut avoir un bear market de type 2022, qui était resté sous contrôle. Je crois qu'on avait fait moins 20, moins 25, peut-être moins 30, en bout du bout, vous voyez. Bon, écoutez, la réflexion commence comme ça, on aura l'occasion de creuser davantage le sujet, mais ça me paraissait important de faire ces premiers éléments de comparaison. J'étais assez rapide, parce qu'il y a tellement de catégories que si on commence à rentrer dans les sujets, dans le détail de chaque catégorie, c'est une vidéo de 5 heures. Alors, on aura l'occasion de le faire, mais ça me permettait déjà là de vous faire un premier élément, un premier point de comparaison, pour pas dire tout de suite, c'est la même bulle que 2000, c'est la même bulle que 2007. Déjà, c'était pas les mêmes secteurs concernés. Et quand c'est les mêmes secteurs qui sont concernés, il n'y a pas derrière la même structure de bénéfices. Bon, maintenant, un mot rapide sur l'analyse technique du S&P 500. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Le machin est dans son haut de canal, a dépassé la 6 moyennes analyses financières. Les prochaines extensions, c'est 6008, 6009. On est en surachat, il n'y a pas encore de divergence. Il pourra toujours y avoir des corrections à court terme. Mais là aussi, même en weekly, on n'a pas la divergence mensuelle, on n'a pas la divergence weekly. Bon, le réservoir des vendeurs se vide. Le réservoir des acheteurs s'est sacrément rempli, mais il y a encore beaucoup de vendeurs. Nous ne sommes pas du tout en surachat d'un point de vue de l'analyse quantitative. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, le Russell 2000 vient à peine de faire son breakout. Le S&P 500 équipondéré est très loin du surachat. Vous voyez qu'en fait, hormis la tech où ça devient complètement bullesque, oui, voilà, c'est pas le cas sur les autres secteurs. Donc il peut y avoir une rotation sur les autres secteurs. Et tout ça, globalement, overall, peut limiter la casse sur le marché action. Voilà, chers amis. Alors, dites-moi, après avoir vu ces quelques éléments, d'après vous, sommes-nous, cette fin 2025, dans une bulle de type la bulle dot-com de 2000 ou encore la bulle de la crise financière liée au crédit de 2007? Sommes-nous, selon vous, proche d'un grand bear market de 50 à 60% ou non? Hâte de vous lire. Merci à toutes et à tous et bonne semaine.
Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournis à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets LTD régulée par la SAISEC, Swissquote Bank Europe SA régulée par la CSSF, Swissquote LTD régulée par la FCA, Swissquote Financial Services LTD régulée par la MFSA, Swissquote MEA régulée par la DFSA, Swissquote PTE LTD régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited licenciée par la SFC et Swissquote South Africa LTD supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris, mais sans s'y limiter, actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.